CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de légende, le podcast incontournable pour briller en société en racontant les fulgurantes réussites derrière les marques iconiques. Je suis Michael Icard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Salut Michael.
Alors aujourd'hui, Sylvain, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la création et de la réussite autour de cette marque est un peu méconnue. Pourtant, cette boisson est la plus connue quasiment internationalement. On parle évidemment de Coca-Cola et des trois entrepreneurs qui se partagent un peu les premiers moments de cette marque. On parle de Pemberton, Robinson et Candler.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors ça va être compliqué à suivre, il va falloir bien l'écouter, mais tout commence, Sylvain, avec la naissance de John Stitt Pemberton en 1831.
Oui, en effet. Donc John Pemberton, il naît à Knoxville, donc en Géorgie, aux États-Unis, en 1831. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas énormément de détails sur sa vie, puisqu'en fait, il est mort assez jeune et avant que Coca-Cola, donc qui va créer, devienne une grande entreprise. Et donc, il n'y a pas grand monde qui s'est penché sur sa biographie de son
vivant. Il n'y a pas eu de biographe.
Donc en fait, on sait les grandes lignes de sa vie, mais on a peu de détails. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il a étudié notamment la médecine, la chimie, la pharmacie, les sciences d'une manière générale, et qu'il a été pharmacien. Donc, en 1855, il ouvre une pharmacie donc à Columbus, une petite ville toujours en Géorgie, non loin d'Atlanta. Et un événement donc très important, c'est la guerre de sécession.
1861.
Voilà, qui est la guerre de sécession qui éclate, et donc John Pemberton qui devient soldat dans l'armée du Sud. Hein, et la Géorgie, c'est les États du Sud des États-Unis. Et il est blessé donc pendant la guerre. Et donc, pour soulager sa douleur, on lui donne de la morphine. Il prend beaucoup de morphine jusqu'à en devenir accro.
Il devient accro complètement
à
la morphine.
Il devient accro à la morphine.
Ce qui est courant après les guerres, surtout à cette époque-là.
Voilà, à une époque où il n'y avait pas encore... La médecine était encore assez rudimentaire. Il prenait beaucoup de morphine jusqu'à devenir accro. Et il a eu dans l'idée de se désintoxiquer à la morphine.
Par chance, il est pharmacien.
Et voilà, il est pharmacien. Donc, il a des connaissances dans le domaine. Et donc, il essaie de se bricoler, hein, c'est vraiment le mot, une boisson, un produit qui lui permettrait progressivement de se désintoxiquer de la morphine, donc notamment à base de cola.
Au début, il y a du vin même dans le...
Il y a eu plein de choses.
Parce que dans l'imaginaire des gens, on parle de French wine, un peu au début qu'il utilisait, du vin.
Oui, alors c'est vrai que la recette exacte, on ne sait pas trop. Il a tâtonné beaucoup pour essayer de trouver sa recette. Il y a évidemment toute la légende autour de la fameuse recette de Coca-Cola. Donc la marque entretient le mystère.
On
en parlera, mais la marque entretient le mystère. Donc c'est difficile de savoir précisément. Disons qu'il a bricolé un temps. Il a essayé plein d'ingrédients, plein de formules.
Et la base du truc, c'est quand même pour arrêter de le rendre accro à la morphine.
C'était au début pensé plutôt comme un médicament hein, que comme une boisson de plaisir. Et en fait, il va se rendre compte que sa boisson, elle est très bonne au goût et que en fait, on ne sait pas trop si ça a marché pour sa désintoxication, mais en tout cas, il trouve cette boisson plaisante. Et donc, dans son esprit, commence à germer l'idée que plutôt que d'en faire un médicament, il pourrait en faire un soda, une boisson, on va dire de divertissement. Je ne sais pas si le terme est bon, mais
c'était pas trop répandu à l'époque les sodas comme ça.
Alors, les sodas existaient déjà depuis le début du 19e siècle, notamment Schweppes, l'anglais Schweppes, qui est un des précurseurs. Donc les sodas étaient répandus, mais lui va inventer les colas, c'est-à-dire les sodas à base de cola. Donc le soda, c'est une boisson gazeuse sucrée, et le cola, c'est une boisson gazeuse sucrée à base de noix de cola, donc avec cette couleur un peu sombre qu'on connaît bien aujourd'hui.
Donc le 8 mai 1886, on connaît la date, le jour un peu de naissance de cette version de Coca-Cola.
Voilà, donc c'est à cette date-là qu'il pense que sa formule lui convient, donc plus comme médicament. Maintenant, il s'agit vraiment de faire une...
C'est un soda maintenant.
Voilà, maintenant c'est vraiment un soda. Et donc, il commence à démarcher ce qu'on appelait à l'époque des fontaines à soda, c'est-à-dire on pourrait appeler ça des salons de thé aujourd'hui, donc des sortes de bars plutôt un peu haut de gamme, où on va boire un soda, boire un chocolat chaud, manger une glace, une pâtisserie. Donc ça ressemble plus à ce qu'on appellerait aujourd'hui un salon de thé.
Parce qu'à l'époque, on ne buvait pas le soda en bouteille comme ça chez soi.
Voilà, donc au début, hein, les sodas et Coca-Cola, ça se vend au verre. Donc c'est une sorte de sirop donc dans lequel on rajoute une eau gazeuse pour faire la boisson. Mais on va voir que la bouteille va venir effectivement plus tard.
C'était quasiment un produit de luxe.
C'était plutôt un produit haut de gamme. Hein. La fontaine à soda de l'époque, c'était plutôt aujourd'hui les salons de thé un peu huppés, où on venait entre gens plutôt de la bonne société, plutôt des classes aisées, où on venait passer en famille ou entre amis, passer un moment le week-end, ce genre de choses. Coca-Cola va devenir plus tard une boisson plus populaire.
Donc du coup, il démarche comme ça les fontaines à soda, mais ça reste quand même un peu modeste.
Alors ça reste modeste. Alors lui est encore malade, il a une santé très fragile, il va mourir peu après. C'est pas forcément un très bon commercial, c'est pas forcément un très bon homme d'affaires, donc la société boitille un petit peu. Et très rapidement, il s'allie avec un certain Frank Robinson.
Donc la deuxième personne.
Voilà, deuxième personne importante qui va pas rester longtemps dans l'entreprise, mais qui aura un rôle très important.
Est-ce qu'on en sait un peu plus sur sa vie à lui ?
Bah, pas beaucoup non plus.
Non plus.
Voilà, parce qu'il est resté très peu longtemps dans l'entreprise et en fait c'était à l'époque c'est complètement anonyme. À l'époque Coca-Cola personne ne connaissait. Et donc alors ce qui est intéressant c'est que lui vient du nord des États-Unis et qu'il a combattu dans l'armée du nord. Donc ils ont été en fait ennemis sur les champs de bataille.
Ah oui, parce que du coup Pemberton battait pour le sud.
Voilà. Et Robinson pour le Nord.
Pour les Yankees.
Voilà, pour les Yankees. Et donc, en ça, Coca-Cola est un peu le symbole de l'unité américaine. Quoi. C'est un peu la réconciliation.
C'était quelques années après la guerre. Les gens se détestaient encore.
Là, on est 10-15 années après la guerre, donc il y a encore des tensions très fortes. Donc voilà, Robinson, qui était venu à Atlanta, un peu dans l'idée de vendre des machines pour faire des affiches publicitaires. Lui, c'est un publicitaire de formation, donc il a sa petite affaire qui péclote un peu. Il rencontre donc Pemberton et il décide de s'associer. Et Robinson va apporter, en tant que publicitaire, va apporter deux choses. Il va apporter le nom, Coca-Cola, puisque Pemberton a inventé la boisson, mais le nom, c'est vraiment...
Ça s'appelait pas encore Coca-Cola.
Ça s'appelait... non, ça n'avait pas vraiment de nom. C'était du cola.
Hein.
Mais il n'y avait pas ce nom de Coca-Cola. Donc, il sonne très bien. Coca-Cola, d'un point de vue mémotechnique, ça sonne très bien. Et Robinson va aussi apporter le graphisme, le logo qu'on connaît tous aujourd'hui, avec les lettres un peu emmêlées.
Ça vient de l'époque, quoi.
Voilà, c'est vraiment dès les débuts, c'est l'invention de Robinson, et le logo va pratiquement pas changer au cours de l'histoire de Coca-Cola.
Donc du coup, on n'en sait pas trop sur Robinson, mais il a quand même amené deux grosses influences au Coca-Cola.
Voilà, c'est vraiment le nom et le logo, et un peu l'image, ces couleurs un peu Coca-Cola qu'on connaît encore aujourd'hui dans les publicités, ou qu'on voit des fois sur les bars, il y a des vieilles affiches. C'est vraiment lui qui a apporté le graphisme et l'image de Coca-Cola. Donc tous deux s'associent, hein, fin 1886, et ils fondent la Pemberton Chemical Company, donc avec le nom déposé de Coca-Cola.
Mais par contre, au début, ça continue quand même à réaliser des pertes, Coca-Cola.
Oui, ça marche pas très bien. Donc, on l'a dit, Pemberton est malade, il peut pas trop s'investir dans l'entreprise. Robinson, c'est un bon publicitaire, mais pas forcément un bon commercial. Donc, c'est vraiment des débuts très poussifs. Jusqu'à ce qu'arrive, comme tu l'as dit au début, un troisième larron, Asa Gig Candler, qui, lui, va vraiment donner l'impulsion à Coca-Cola. Donc lui, c'est un homme d'affaires qui un jour a bu un Coca-Cola dans une fontaine à soda d'Atlanta et qui est vraiment tombé sous le charme de la boisson, qui s'est dit ce produit c'est génial, ça va marcher, et donc il va aller voir Pemberton et Robinson et il va leur racheter Coca-Cola, dans l'idée de développer l'entreprise. Donc en 1888, l'entreprise change de propriétaire.
Et lui, rapidement, il va avoir une nouvelle stratégie pour faire connaître la marque.
Voilà, donc lui, c'est un pharmacien de formation.
Lui aussi,
mais il a l'âme d'un entrepreneur, d'un vendeur, d'un homme d'affaires, ce qui n'était pas le cas de Pemberton et Robinson. Donc voilà, deux ans après la création de la société, elle est revendue. Donc Pemberton meurt très rapidement, il était très malade des suites de ses blessures, et Robinson vend ses parts aussi, donc il n'est plus dans la société. Donc très rapidement, c'est vraiment Candler qui devient le seul maître à bord, et c'est lui qui va faire de Coca-Cola une petite boisson totalement anonyme d'Atlanta, un géant, d'abord aux États-Unis, et puis ensuite on verra qu'ils vont partir à la conquête du monde. Donc c'est lui qui va apporter beaucoup d'innovations. Par exemple, il propose des coupons gratuits pour un Coca-Cola, ce qui se faisait pas du tout à l'époque.
Bah oui.
L'idée de donner son produit, en l'occurrence une boisson, gratuitement, c'est au début tout le monde disait, mais enfin tu vas pas donner ton produit.
Ah, surtout que le positionnement était un peu haut de gamme. Donc
voilà, c'est un peu comme si aujourd'hui vous donniez un parfum très cher, quoi, assez cher en tout cas. Donc lui se dit, quoi, évidemment, il tient le raisonnement qu'on a plus aujourd'hui, c'est de se dire, je suis convaincu d'avoir un bon produit, donc il faut que les gens le goûtent une fois pour qu'ils veuillent le racheter ensuite. Et donc ça fonctionne très bien. C'est lui qui a l'idée de donner plein de petits gadgets publicitaires, des goodies, comme on dit en bon français, donc des plateaux pour les serveurs, des décapsuleurs, enfin plein
oui,
de...
Oui, ça existe encore avec Coca-Cola, c'est lui, voilà, qui est à l'origine
C'est lui qui est à l'origine de ça, c'est vraiment cette idée marketing.
C'est pour ça qu'il existe beaucoup de produits de marketing de l'époque. C'est une des marques où il en existe le plus.
Oui, alors c'est effectivement depuis le début, quoi, dès que Candler reprend l'entreprise, c'est sa stratégie marketing. De vraiment dans les bars distribuer des fontaines à soda à l'époque, distribuer des affiches, distribuer des plateaux pour les serveurs, distribuer des sets de table, distribuer plein de petits gadgets qui donnent gratuitement, hein, mais qui évidemment portent le logo de Coca-Cola et portent un peu l'image de Coca-Cola. Il y a toujours ces personnages, on voit toujours ces personnages très heureux, bien portants, souriants. Alors un peu plus tard, quand la société sera un peu moins puritaine, il y aura aussi les belles filles en maillot de bain sur la plage.
Bah, ce sera aussi l'arrivée des pin-up en même temps.
Voilà, dans les années 50-60. Mais il y a vraiment, c'est vraiment lui qui va façonner l'image de Coca-Cola qu'on a encore aujourd'hui et les images qui nous viennent à l'esprit quand on pense à Coca-Cola.
Et donc toute cette publicité autour de la marque, ça va complètement influencer la trajectoire de la marque.
Oui, donc là, Coca-Cola prend vraiment son essor avec Candler, hein, qui lui est vraiment l'âme d'un homme d'affaires. Et donc, c'était une petite boisson d'Atlanta complètement anonyme et qui devient, on va dire, 15-20 ans, qui devient le soda de référence aux États-Unis.
C'est le soda de référence. Et en plus, il ne ment pas sur ses publicités puisqu'il affiche le prix.
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu surprenant. Quoi, surprenant? En tout cas, on n'y est pas habitué. Dans sa communication, c'est le Coca, quoi, le verre à l'époque, on n'est pas encore la bouteille, mais le verre de Coca-Cola à 5 cents. Donc 5 centimes. Et vraiment sur les goodies, sur tous ces objets qu'il distribue, il affiche le prix. Donc vraiment, il y a ce côté...
C'est pas très malin, parce que si tu veux changer le prix...
Oui, alors c'est difficile de changer le prix, mais on verra que le prix va rester stable justement très longtemps. C'est assez cocasse d'ailleurs comme histoire. Et donc, il y a un côté pour dire... En affichant le prix, c'est vrai qu'il prend un risque, mais d'un côté, il s'engage aussi vis-à-vis de son consommateur, vis-à-vis du client. Il dit, voilà, mon verre de Coca-Cola, et après la bouteille, c'est 5 centimes, et ça ne changera pas. Donc il y a un côté, je mets mon jeu sur la table vis-à-vis du client.
Donc il est malin pour ça, Candler, mais il n'est pas malin pour tout, parce qu'il va rater notamment une évolution déterminante pour la marque.
Oui, alors on le rappelle, hein, jusqu'à la fin du 19e siècle, le Coca-Cola est vendu au verre, donc dans les fontaines à soda, et Candler ne croit pas du tout à la bouteille. Et donc il y a deux ingénieurs, notamment Benjamin Franklin Thomas et Joseph Whittard, qui eux envisagent de mettre le Coca-Cola en bouteille pour le vendre plus facilement, et Candler n'y croit pas du tout. Il dit c'est trop cher, ça marchera pas, et les deux ingénieurs insistent. Et Candler les autorise à créer une sorte de filiale qui s'occupera de la mise en bouteille du Coca-Cola. Mais c'est vraiment ces deux ingénieurs qui apportent les fonds, qui gèrent tout. Candler, il dit juste, OK, je vous autorise à prendre la marque, vous me versez un peu d'argent, mais moi, je veux pas m'en mêler parce que je pense que ça va foirer. Et évidemment, Candler s'est trompé et le Coca-Cola va prospérer en bouteille, va se vendre en bouteille. Aujourd'hui, on n'achète plus de Coca-Cola dans des fontaines à soda avec du sirop et de l'eau gazeuse qu'on rajoute.
Donc du coup, rapidement, il crée plein d'usines pour embouteiller le Coca?
Oui, alors donc ces deux associés, hein, qui viennent d'arriver dans l'entreprise créent un réseau de franchisés d'usines de mise en bouteille dans tous les États-Unis. Il y en a plusieurs centaines très rapidement.
Et donc au début, c'était un réseau de franchises qui embouteillait Coca-Cola.
Voilà, donc il y avait le sirop Coca-Cola qui était créé par l'entreprise même. Et après, c'était un réseau de franchisés, donc indépendant juridiquement de l'entreprise, qui s'occupait de la mise en bouteille et de la distribution. Alors avec des problèmes de contrefaçon,
évidemment,
assez rapidement, puisqu'il y avait donc tout un tas d'usines d'embouteillage qui contrefaisaient le Coca-Cola, qui prétendaient vendre du Coca alors qu'en fait ils faisaient je ne sais quoi.
Alors qu'à l'époque, il faut le dire, le cola c'était pas autant répandu, donc c'était quand même innovant.
Oui, bien sûr. C'était le produit phare, le produit nouveau. Donc, avec un problème, donc sur les premières bouteilles, qui était qu'il y avait une étiquette en papier qui était collée. Et donc, quand elle se décollait avec la buée sur les bouteilles, par exemple, et bien après, c'était assez facile pour les escrocs, disons, de changer juste l'étiquette. Et c'est pour ça que Coca-Cola va avoir l'idée de faire une bouteille en verre, la fameuse bouteille qu'on connaît encore aujourd'hui, une bouteille en verre où le nom est gravé dans la bouteille.
C'est exprès pour lutter contre la contrefaçon.
Notamment, en effet, pour lutter contre la contrefaçon, parce que comme ça, on ne peut pas juste changer l'étiquette. Ça devient beaucoup plus dur de changer. C'est une bouteille, en plus, qui est un petit peu technique à faire. On la connaît tous, cette bouteille.
Évidemment, on la reconnaît au toucher.
Au toucher aussi, on peut la reconnaître au toucher dans une glacière, par exemple. On sait tout de suite que c'est une bouteille de Coca-Cola. Donc, c'est notamment pour lutter contre la contrefaçon qu'ils vont graver leur nom, en fait, directement dans leur bouteille.
Une nouvelle contrainte va arriver pour Coca-Cola, c'est la guerre en 1917.
Oui, donc les États-Unis entrent en guerre en 1917, donc la Première Guerre mondiale, et le sucre est rationné. Donc beaucoup de produits sont rationnés, dont le sucre.
Il n'y a pas de sucre dans Coca-Cola.
Non, c'est vrai qu'il y a... c'est très sain.
Oui.
Et pour Coca-Cola, effectivement, le rationnement du sucre pose un problème énorme, le prix du sucre s'envole, et à ce moment-là, donc 1917-1918, l'entreprise est vraiment frôle la faillite. Et d'ailleurs, Pepsi, un des grands concurrents, fait faillite à ce moment-là. Bon, après, l'entreprise sera rachetée. Coca-Cola aurait pu la racheter, d'ailleurs, à ce moment-là. Ils ont pas voulu.
Ah, ils auraient pu le faire, ils auraient écrasé tout.
Voilà, après, bon, la suite va montrer effectivement qu'ils auraient mieux dû racheter Pepsi à cette époque, mais ils ne le font pas. Donc voilà, il y a une période très difficile pour Coca-Cola, 1917-1918, pour tous les fabricants de soda, d'ailleurs. Coca-Cola frôle la faillite, mais parvient à se relancer.
Et en 1919, Coca-Cola est vendu.
Voilà, donc Candler, lui, s'est lancé dans une carrière de politique. Et il deviendra notamment maire d'Atlanta. Et donc, il désire céder ses parts dans Coca-Cola. Donc, il revend l'entreprise à un groupe d'investisseurs avec à leur tête un certain Ernest Woodruff, qui va être une des autres grandes figures de Coca-Cola. Et il revend l'entreprise pour 10 000 fois le prix d'achat.
Ah oui,
donc
une bonne plus-value.
Voilà, une belle plus-value. Il a réalisé un bon investissement, en effet.
Donc du coup, maintenant, la société est aux mains de Woodruff et il va être un peu aidé par les événements économiques aux États-Unis.
Oui, alors il y a plusieurs choses qui vont l'aider. Il y a des événements alors politiques, déjà. Il y a la prohibition, puisque c'est une période aux États-Unis où, pour lutter contre l'alcoolisme, on interdit la vente d'alcool. Et donc, évidemment, ça bénéficie aux boissons non alcoolisées.
Et à Al Capone.
Comme alors, et Al Capone qui trafiquera du whisky, etc., de contrebande. Mais pour les...
Mais évidemment, oui, ça bénéficie évidemment au soda. Quoi.
Voilà, à toutes les boissons non alcoolisées, dont Coca-Cola. Il y a une innovation technologique qui est le frigo, quoi, le réfrigérateur, qui commence à se répandre, puisque le Coca-Cola, on sait tous que c'est quand même meilleur frais, et donc le fait que dans les entreprises, les maisons, petit à petit, le frigo arrive, c'est très bénéfique pour Coca-Cola. Il y a un événement d'une certaine façon économique, puisque la crise de 1929, on peut presque dire qu'elle aide Coca-Cola dans le sens où, en période de crise, vu que c'est pas très cher, Coca-Cola, c'est toujours 5 cents, les gens ont toujours envie de se faire un petit plaisir, se dire « Ok, il y a un risque de chômage, l'économie va mal, mais je peux quand même me faire mon petit plaisir et m'acheter ma canette, ma bouteille de Coca-Cola pour 5 cents. »
C'est en fait, pareil que le rouge à lèvres, on en avait parlé.
Oui, c'est un petit peu la même idée que le rouge à lèvres, donc la théorie du rouge à lèvres, qui est qu'en période de crise, on a quand même envie de se faire un petit plaisir, et donc vu qu'un tube de rouge à lèvres, c'est pas si cher que ça, et bien en fait, ça fait partie des produits qui résistent assez bien aux crises, d'une manière assez paradoxale. Et donc Coca-Cola, les années 20, les années 30, c'est une période de très forte croissance pour Coca-Cola. C'est à ce moment-là que Coca-Cola invente le pack de 6 bouteilles pour pouvoir en vendre 6 d'un coup au lieu d'une, ce qui est très bien pensé.
Ah oui, parce qu'à l'époque, on vendait une bouteille de Coca-Cola par une bouteille.
Au début, on vendait la bouteille de Coca-Cola, et là, on commence à la vendre par 6. Coca-Cola essaie aussi de s'internationaliser à cette époque-là, avec au début, un succès mitigé.
Au début c'était vraiment qu'aux États-Unis Coca-Cola.
Oui, ou dans les pays anglo-saxons en tout cas, parce que en dehors du monde anglo-saxon, il n'y avait pas encore la culture du soda. Donc les premiers pas de Coca-Cola à l'international dans les années 20, les années 30 ont été assez difficiles. Après, on verra qu'après la guerre, ça a très bien marché. Mais voilà, c'est vraiment en tout cas dans le monde anglo-saxon une période de très forte croissance pour Coca-Cola.
Et Woodruff a aussi des bonnes idées.
Ah oui, alors parmi les bonnes idées, donc on a mentionné le paquet de 6 canettes. D'un point de vue marketing, il a notamment l'idée d'utiliser l'image du Père Noël. On associe souvent le Père Noël à Coca-Cola parce que, en fait, le problème de Coca-Cola, c'est qu'il ne vendait peu en hiver. On n'a pas spécialement envie de boire un Coca-Cola en hiver, on boit plutôt un chocolat chaud. Et donc, pour inciter à consommer du Coca-Cola en hiver, il va lancer des grandes campagnes de publicité associant la marque au Père Noël.
Avec le Père Noël qui boit du Coca.
Voilà, avec un Père Noël rouge, puisque avant, le Père Noël, il existait déjà, hein, le personnage, mais il n'était pas toujours rouge dans certaines cultures.
Ouais, il était vert ou bleu.
Vert, hein. Ou bleu, un peu toutes les couleurs. Et donc, il va associer l'image de Coca-Cola à un Père Noël rouge, puisque le rouge, bien sûr, c'est l'image de la marque de Coca-Cola. Et donc, il va comme ça pouvoir augmenter les ventes, y compris pendant la période creuse qui était l'hiver.
L'image du Père Noël qu'on a maintenant, un peu
voilà, Père Noël
grassouillé, rouge et tout, c'est un peu Coca-Cola voilà. Qui l'a. Et c'est pour ça que les gens pensent à tort souvent que c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël.
Voilà, Coca-Cola n'a pas inventé le Père Noël. Le Père Noël existait déjà avant, mais ils ont façonné l'image du Père Noël.
Ils ont fait le petit coup de punch marketing voilà. Qu'avait besoin le Père Noël.
Voilà, c'est ça.
Et c'est aussi, tu en as parlé tout à l'heure, Robert Woodruff, qui pense à mettre encore un peu plus de flou autour du mystère sur la formule du Coca-Cola.
Oui, la formule du Coca-Cola a très certainement évolué entre l'invention de Pemberton et le soda qu'on connaît aujourd'hui, ou même dans les années 20, mais on ne sait pas trop comment, et lui en fait se rend compte que tous les débats, les énigmes autour de la recette, en fait, d'un point de vue marketing, c'est très bien pour l'entreprise, parce que ça crée un peu de mystère, on en parle, etc. Et donc, lui va jouer là-dessus, va jouer sur cette carte du mystère de Coca-Cola. Donc, des fois, il met sa recette en garantie, donc il fait venir des camions blindés pour la transporter, etc. Quoi, il crée vraiment un peu le buzz autour. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que c'est très difficile de savoir vraiment quelle était la recette originale, quelle est la recette aujourd'hui, comment les différents ingrédients ont changé, parce que l'entreprise elle-même a, je vais pas dire mis de l'enfumage, mais a joué en fait là-dessus. Donc voilà, il y a ce mystère, on ne sait pas trop, ça fait partie un peu de la légende.
Bah, c'est malin, bah, ça a été repris.
Malin, hein. C'est très malin.
Quick le fait avec la sauce du Giant, ils essayent de faire un peu pareil.
Oui, alors d'autres essaient de le faire avec sûrement moins de réussite, parce que vraiment c'est Coca-Cola qui a été le premier à faire ça et qui a un produit connu dans le monde entier.
Et Woodruff, il pense aussi à faire la promotion du Coca dans le lieu de travail.
Oui aussi, puisque le Coca-Cola, c'était avant tout une boisson détente, donc on buvait plutôt le week-end ou en soirée avec des amis. Et lui va essayer de l'amener donc dans les entreprises, dans les cantines d'entreprise, dans la pause café, quoi, au lieu qu'il y ait juste une machine à café, où il y a aussi un distributeur de Coca-Cola. Donc il a cette idée de vendre Coca-Cola dans le plus d'endroits possible.
Et pour l'instant, toujours le même prix.
Toujours le même prix, toujours 5 centimes.
5 centimes la bouteille. Bon. On a parlé tout à l'heure de la Première Guerre mondiale. On est dans les années où il arrive la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour Coca-Cola, c'est une période à la fois de difficultés et d'opportunités. Donc, les dirigeants de Coca-Cola, à cette époque-là, sont, on va dire, je vais pas dire des militants nazis, mais enfin, plutôt une certaine sympathie pour les idées d'extrême droite et ne veulent pas arrêter, notamment leurs usines en Allemagne, qui rapportent beaucoup d'argent. Et c'est là que naît le Fanta. Puisque pendant la guerre, il y a eu en Allemagne donc des rationnements sur les produits,
des pénuries,
voilà, hein. Des pénuries, et donc il y avait plus les ingrédients pour faire du Coca-Cola, et donc les usines Coca-Cola allemandes, pour ne pas fermer et continuer à faire des affaires, ont changé la recette et on fait.
Il ne devait pas y avoir de cola là-bas, donc.
Voilà, il ne devait pas y avoir de cola ou de je ne sais quel ingrédient, puisque on ne sait pas trop la formule, mais enfin ils ont changé les ingrédients et ils ont fait donc cette boisson orange qu'ils ont appelée Fanta. Donc le Fanta, en fait, c'est une modification de la formule du Coca-Cola en Allemagne pendant la guerre.
Ils survivent donc bien à la guerre et derrière, tu l'as dit, ils deviennent internationaux.
Oui, alors en fait, ils ont été aidés par la guerre pour s'internationaliser, puisque Coca-Cola a eu l'idée de se dire on va vendre notre soda à tous les soldats américains qui sont aux quatre coins du monde, hein, puisque l'armée américaine, à la fin de la guerre, était vraiment aux quatre coins du monde. On va leur vendre une bouteille de soda à 5 centimes. On va s'engager à ça. C'est vraiment un peu cet engagement de Coca-Cola.
Donc il faut amener les bouteilles là-bas.
Voilà, il faut amener les bouteilles là-bas. Donc pour Coca-Cola, ça a un coût, parce que c'est un coût logistique. Mais en termes d'image, ça fait vraiment l'image de l'entreprise patriote. C'est bon pour le moral des soldats qui sont loin de chez eux, qui peuvent boire une boisson un peu rafraîchissante qui leur rappelle leur pays. Et donc Coca-Cola développe un réseau logistique au niveau mondial pour acheminer ou, et embouteiller ces boissons aux quatre coins du monde.
Ah, ils font des usines d'embouteillage
voilà.
partout.
Et donc, quand la guerre prend fin, eh bien Coca-Cola a un réseau logistique en Europe, en Asie, etc., vraiment mondial. Et donc, évidemment, ils utilisent ce réseau pour vendre du Coca-Cola dans le monde entier. Et comme, à la fin de la guerre, les grands vainqueurs sont les États-Unis, et tout ce qui vient des États-Unis est vu avec convoitise, hein, le chewing-gum, etc. Eh bien, l'image de Coca-Cola est fortement améliorée. Hein, c'est l'image du GI qui boit son Coca avant de partir au front. Et donc, là, Coca-Cola, entre une image améliorée et un réseau logistique mondial, là, vraiment, Coca-Cola prend son essor dans le monde entier. Quoi, sauf le bloc communiste au début, hein, mais en tout cas dans le monde occidental.
Oui, donc c'est le soldat, un peu comme avec le chewing-gum qui a popularisé
voilà,
Coca.
Voilà, en bonne partie, oui.
Mais par contre, bon, du coup, ils vont être internationaux, mais rapidement, ils vont avoir quelques soucis.
Alors, oui, ils avaient des soucis. En fait, un peu par... Quoi, ils se sont un peu créés, j'ai envie de dire. Parce que... On a dit Coca-Cola s'est engagé à vendre son produit, sa bouteille de Coca-Cola à 5 centimes.
Mais ça vaut plus rien à 5 centimes. Bah, ça fait des années qu'il
oui,
est à 5 centimes.
Ce qu'il faut voir, c'est que à l'époque, il y a eu quand même très peu d'inflation. Tout le début du XXe siècle, alors, il y avait parfois un peu d'inflation, un peu de déflation. Donc il y a eu globalement peu de hausse de prix. Il y a eu des gains de productivité, c'est-à-dire que les usines Coca étaient plus productives. Le produit a un peu changé d'image, hein, c'était plutôt un produit de luxe, ensuite c'est devenu plutôt un produit populaire. Donc, pour toutes ces raisons, ils avaient réussi à maintenir un prix à 5 centimes.
Ah oui, en fait, en gros, avant ça coûtait 5 centimes, mais 5 centimes c'était cher,
voilà.
Et à la fin, 5 centimes c'est plus trop cher, le produit était devenu populaire.
Voilà, donc en fait, l'image du produit est passée d'un produit plutôt haut de gamme à un produit plutôt bas de gamme, ou en tout cas un produit populaire. Mais dans les années 50, il y a effectivement beaucoup plus d'inflation, et là, pour Coca-Cola, continuer à vendre 5 centimes son produit, c'est plus du tout possible.
C'est plus rentable.
Et donc, ils ont un problème qui est qu'ils vendent beaucoup, notamment dans des distributeurs, on paye avec une pièce de 5 centimes et il faut passer à 10 centimes si vous voulez passer le prix d'au-dessus. Donc il faudrait doubler le prix. Et donc il y a une anecdote assez rigolote puisque les dirigeants de Coca-Cola à l'époque sont allés voir le ministre des Finances américain pour lui dire est-ce que vous pourriez pas créer une pièce de 7,50 centimes pour qu'on n'ait pas à augmenter, pour qu'on n'ait pas à doubler notre prix. Bon, ça a été refusé évidemment, mais on voit qu'il y a vraiment une problématique sur le prix du Coca-Cola. Et bon, finalement, Coca-Cola va augmenter son prix. Ils ont plus le choix. Les années 50-60, c'est des périodes d'inflation, donc ils peuvent plus continuer à vendre à 5 centimes. Et donc, cette longue période de stabilité du prix du Coca-Cola va prendre fin à la fin des années 50.
Donc le premier problème, c'est l'inflation, mais les années 60-70 sont aussi moins porteuses pour le Coca-Cola.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà, on va dire, tout le mouvement un peu hippie qui ne porte pas le Coca-Cola dans son cœur. Quoi.
Le soda en général.
Voilà, le soda en général, bien sûr. Donc avec toutes les critiques qui commencent à émerger sur le sucre, sur les problèmes pour la santé. Et il y a aussi un autre problème qui est l'adversaire Pepsi, qui était un peu le numéro 2 pendant très longtemps et qui commence vraiment à concurrencer Coca-Cola. Donc Pepsi, qui fait une communication forte auprès des Afro-Américains, qui se pose un peu en héros de la lutte pour les droits des Afro-Américains.
Et il communique avec des Afro-Américains.
Il communique, voilà, qui est une des premières grandes entreprises à communiquer avec des Afro-Américains. Alors peut-être par conviction, peut-être par opportunisme, on ne sait pas trop. Le Pepsi qui est préféré dans les tests en aveugle, c'est-à-dire que quand on bande les gens des yeux, on leur fait boire deux boissons, laquelle préférée.
À l'époque, le Pepsi préféré.
Voilà, à l'époque, et donc c'est un peu problématique pour Coca-Cola parce que du coup, Pepsi est préféré.
Et Pepsi communique là-dessus.
Évidemment, Pepsi communique là-dessus, évidemment, saute sur l'occasion. Donc voilà, il y a une période un peu, on va dire, un peu plus difficile pour Coca-Cola. Ils vont essayer de changer la formule dans les années 80.
Ah oui, je m'en rappelle.
Ils vont se dire, on va changer la formule puisque Pepsi est préféré. Et énorme échec marketing parce que voilà, ils avaient en fait tout leur capital symbolique qui était sur la formule immuable, et quand ils veulent changer la formule, les consommateurs s'insurgent, tout le monde dit ça y est, c'est la fin de Coca-Cola, etc. Donc vite ils font machine arrière, ils gardent l'ancienne formule.
Ils ont de la chance que Pepsi leur soit pas passé devant, hein.
Oui, alors sur le marché américain, Pepsi parfois leur est passé devant, mais enfin le poids de Coca-Cola à l'international et du groupe Coca-Cola, parce qu'il y a Coca-Cola, il y a Fanta et il y a plusieurs centaines d'autres boissons qu'ils ont rachetées, hein. C'est vraiment, c'est devenu au fil du temps un groupe qui, malgré toutes ces difficultés, a réussi à rester le numéro un mondial des sodas.
comme toutes les grandes marques, notamment alimentaires, il y a des scandales autour de Coca-Cola qui arrivent.
Voilà, c'est surtout lié au sucre et aux problèmes sur la santé, avec Coca-Cola qui aurait commandé de fausses études scientifiques pour dire que bah non, en fait, c'est pas si problématique pour la santé, avec les tentatives de faire du Coca-Cola Light, du Coca-Cola Zéro, bon, dont l'impact pour la santé, le bénéfice qu'il peut y avoir est très discuté, puisqu'on remplace le sucre par un autre produit. Donc effectivement, Coca-Cola a été et toujours sous le feu des critiques, notamment pour les problèmes pour la santé que ça implique. Donc quand ils font de la publicité auprès, par exemple, des jeunes enfants, ces enfants sont incités à boire du Coca-Cola, ce qui n'est pas forcément la meilleure des boissons pour leur santé.
On associe maintenant souvent Coca-Cola à l'obésité.
Oui, Coca-Cola, le fast-food, c'est vrai que Coca-Cola McDo, hein, typiquement, c'est un peu les... certains, en tout cas, des responsables des problèmes d'obésité qu'on connaît dans le monde entier. Voilà. Et avec Coca-Cola aussi, qui va devenir le symbole des États-Unis, ce qui va amener aussi des critiques. Hein. C'est un peu le symbole de l'américanisation triomphante, un peu comme McDonald's aussi, donc ce qui va entraîner des critiques vis-à-vis de l'entreprise.
Mais il reste numéro un quand même.
Voilà, c'est toujours un groupe tentaculaire avec des centaines de marques et c'est toujours de très loin le numéro un mondial du soda.
L'histoire de Coca-Cola nous prouve que, parfois, une invention révolutionnaire a quand même besoin de la combinaison de plusieurs savoir-faire et de plusieurs cerveaux pour exploser et connaître le succès. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Je rappelle Sylvain que cette histoire est tirée du 3e tome de ta série de livres Entrepreneurs de légende qu'on peut retrouver aux éditions Henrik B et dans toutes les bonnes librairies évidemment. On te retrouve aussi dans le magazine Courrier 4 tous les deux mois pour un portrait passionnant. Vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur toutes les plateformes audio ou sur CDI Podcast. On vous dit à bientôt.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.